La marche du monde.
Le poids de l'évidence et de la raison pesant chaque jour davantage, la République française a décidé de placer ses rapports avec la République populaire de Chine sur un plan normal, autrement dit diplomatique.
Le poids de l'évidence et de la raison, c'est ainsi que le général de Gaulle justifie sa décision de reconnaître la Chine populaire de Mao le 27 janvier 1964. En pleine guerre froide, l'annonce du rapprochement franco-chinois fait l'effet d'une bombe politique.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Et pour revivre avec nous cette reconnaissance de la Chine de Mao par De Gaulle, je reçois Bernard Crook, auteur d'une thèse sur la politique française à l'égard de la République populaire de Chine, publiée aux Indes Savantes sous le titre « De Gaulle et la Chine ». Bonjour Bernard Crook.
Bonjour.
Ni hao.
Ni hao.
À l'époque, De Gaulle crée la surprise lorsqu'il reconnaît la Chine populaire. Comment sa décision est-elle perçue ?
En France, disons que sur le fond, tout le monde est d'accord,
ouais.
Sur la forme, c'est différent. C'est-à-dire, on va reprocher à gauche et au centre le fait du prince, on va lui reprocher une politique solitaire, alors que sur le fond, la plupart des dirigeants politiques français, centristes, socialistes, radicaux ou communistes, préconisaient cette mesure depuis fort longtemps.
Et à l'extérieur, ça réagit fort aussi, hein ?
On pourrait le dire en une formule, la France avait raison, mais il ne fallait pas le dire. Les Américains, bien sûr, n'étaient pas très contents. L'ambassadeur de France a été reçu 4 ou 5 fois par des personnes différentes, et chaque fois, ça montait en puissance au niveau de la colère. En URSS, évidemment, ils étaient gênés du fait de la querelle sino-soviétique, mais ils avaient préconisé cette mesure depuis longtemps. Il y a eu beaucoup d'approbation dans les pays du tiers-monde, quelques inquiétudes dans les pays africains francophones, et puis en Europe, certains pays comme l'Italie ou l'Allemagne fédérale enviaient la liberté de manœuvre de la France. La Grande-Bretagne, à cause de Hong Kong, avait reconnu la Chine, mais avait quand même encore des relations avec Taïwan. Donc c'était difficile pour les autres de critiquer trop la France sur ce point de vue.
Nous avons entendu combien De Gaulle se veut rassurant, puisqu'il parle du poids, de l'évidence et de la raison. Alors si c'est tellement évident, pourquoi a-t-il attendu 64 ?
Alors il y avait un contentieux franco-chinois. D'abord, en 1945, les Chinois nationalistes avaient libéré le nord de l'Indochine et n'avaient pas mis beaucoup de bonne volonté à repartir, alors que les Britanniques étaient repartis tout de suite. Il y a fait une pression américaine pour obtenir ce retrait. Ensuite, dès 1949, dès que la République populaire de Chine a été aux frontières de l'Indochine, l'affaire était scellée, car des dizaines de milliers de Chinois, civils et militaires, sont venus aider le Viet Minh. En troisième lieu, en 1950, le bataillon français en Corée a affronté directement des soldats chinois. Et ensuite, pour finir, la Chine a été en pointe également pour la reconnaissance du gouvernement provisoire de la République algérienne. Elle a soutenu le FLN, plus en parole qu'en acte. Enfin, elle disait qu'elle envoyerait des volontaires, elle envoyait du thé. Hein, bon. Mais néanmoins, elle avait une attitude et une virulence dans les propos qui étaient très difficiles à supporter. Alors, il y avait eu des tentatives. Disons qu'il y avait eu déjà la conférence sur l'Indochine en 1954. Et Chou Enlai avait noué un lien avec Pierre Mendès-France. Il l'avait invité. Et Mendès-France répondra à cette invitation en 1958 avec Roland Dumas. Et puis en 1961, il y avait eu une conférence sur le Laos, et le maréchal Tchénier avait fait là encore des avances à Maurice Couve de Murville, mais tant que l'affaire d'Algérie n'était pas réglée, De Gaulle ne pouvait pas mener sa politique tous azimuts, celle que le professeur Maurice Weiss appelle la politique de grandeur.
Alors comment le président Mao a-t-il apprécié la reconnaissance de son pays par De Gaulle ? Réponse de l'ancien ambassadeur chinois en France, Hu Jiamin, au micro de notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde.
Le président Mao a beaucoup apprécié cet accord. Il a beaucoup d'admiration pour les généraux. Parce que Mao et le général de Gaulle ont résisté à l'agression étrangère. Dans le cas de la France, c'est l'agression allemande. Dans le cas de la Chine, c'est l'agression japonaise. Et ensuite, Mao est un homme d'État qui s'attache à l'indépendance. C'est aussi ce qui caractérise le général de Gaulle. Donc, ce sont les points majeurs communs qui lient à ces deux hommes d'État.
Volonté commune, intérêt commun de la Chine et de la France conduisent à ce rapprochement franco-chinois de janvier 1964. Tout est à faire. Et pour commencer, il faut installer une ambassade de France à Pékin. C'est le rôle de celui qui va être choisi par le général. Écoutez le témoignage du premier représentant de la France à Pékin, Claude Chaillet. Il s'est confié à Sophie Liguo.
Je crois que, comme d'habitude, le général a fait les choses toutes simples, en disant que la France et la Chine avaient des intérêts communs du point de vue international. Et donc, pour ce faire, il fallait naturellement parler. Et que pour parler, eh ben, il fallait d'abord se rencontrer. Et c'est la raison pour laquelle le général a décidé de faire envoyer quelqu'un. Et il a dit, eh ben, qui peut-on envoyer? On a dit, on va envoyer quelqu'un qui connaît, il y a quelqu'un qui a déjà été en Chine. Il s'appelle Claude Chaillard, bon, très bien. Ben. Envoyez-le! Envoyez comme agent du gouvernement français, c'est ça que j'étais. J'ai rencontré Cheny, qui était ministre des Affaires étrangères. Cheny était un personnage qu'on appelle en français « haut en couleur ». Et donc, le plus naturellement du monde, il m'a dit ce qui était évident. Mais si j'ai bien compris que vous avez déjà été en Chine, bien sûr, puisque j'y étais dans mon enfance. Et alors, il m'a dit « alors vous parlez le chinois ». Non, je ne parle plus le chinois. Mais cependant, je peux vous dire que vous parlez très mal. En ce sens que vous avez un accent provincial épouvantable. Vous parlez pas du mandarin. Alors il m'a dit, si je comprends bien, le chargé d'affaires de France me dit que je parle mal le chinois. J'ai dit, oui, tout à fait.
Tandis que Claude Chaillet négocie l'installation de l'ambassade de France à Pékin et le développement des premières relations diplomatiques, la question du développement des relations culturelles est également à l'ordre du jour, comme le préconise le sénateur Edgar Faure.
Voilà un pays auquel nous disons « vous n'existez pas ». Nous voulons tout de même vous infuser notre culture, vous envoyer des représentants. Les Chinois sont des gens qui ont de l'amour propre, comme d'ailleurs les Français. Alors je crois qu'il vaut mieux prendre les choses franchement et agir avec courtoisie. Ne pas leur donner l'impression que leur personnalité, en tant que peuple, en tant que nation, est méconnue. Telles sont les raisons pour lesquelles, pour ma part, je conseille ou je recommande, dans la mesure où l'on peut me demander mon avis, une décision complète.
C'est une opportunité formidable pour de jeunes Français qui étudient le chinois. Le 27 janvier 64, l'éminente sinologue Marianne Bastide-Bruyguière, à l'époque n'a que 23 ans. Elle se souvient de sa réaction lors de l'annonce de la reconnaissance de la Chine par De Gaulle.
Oh, ça a été une grande excitation.
Oui.
Et ma première préoccupation, ça a été de rendre visite, d'une part, au ministère des Affaires étrangères et d'autre part à Edgar Faure lui-même, pour savoir s'il y aurait moyen d'aller en Chine pour enseigner, faire quelque chose, et de manière à pouvoir continuer mes études de chinois sur place et faire une thèse sur l'histoire de la Chine.
Donc vous vous êtes portée immédiatement candidate.
Ah, immédiatement.
Marianne Bastide-Bruyguière, donc vous êtes candidate et vous allez rejoindre Pékin lors de l'été 64. Vous faites partie de ces tout premiers Français en Chine. Comment vous retrouvez-vous dans ce groupe pionnier et quelle est votre mission?
Eh bien, j'avais donc demandé aux affaires étrangères si jamais il y avait quelque chose. Et on m'avait ri au nez en me disant que dans un pays communiste, ça prendrait très longtemps avant qu'il y ait des relations culturelles. Et au mois de juillet 1964, quand j'étais en train de passer les oraux d'agrégation, j'ai reçu un coup de téléphone du jeune fonctionnaire des affaires étrangères que j'avais rencontré au mois de février, me disant, écoutez, nous entendons dire que l'ambassade de Chine recrute. J'ai donc téléphoné à l'ambassade de Chine, on m'a reçu le surlendemain, et j'avais pas parlé pendant 10 minutes, que les deux fonctionnaires qui étaient là, ils m'ont dit, on vous recrute, et vous partez à Pékin dans 15 jours.
Extrêmement rapide alors.
Ah oui, mais inimaginable, ils n'avaient rien vérifié. C'était incroyable.
Marianne Bastide de Bruguière, vous êtes donc très très peu de Français à l'époque à Pékin, dans ces années 64-65.
Oui, on est parti, on était 14.
Quelles sont vos conditions de vie à l'époque?
Mais quand on est arrivé à Pékin, c'était extraordinaire. On habitait dans un immense ensemble qui existe d'ailleurs toujours, qui s'appelle l'Hôtel de l'Amitié. Le nom réel, c'était l'Hôtel de l'Amitié sino-soviétique. Mais comme en 64, l'amitié sino-soviétique était légèrement défaillante.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Simplement l'Hôtel de l'Amitié. Il y avait une piscine, des salles où on pouvait faire du ping-pong, il y avait un bal tous les samedis soirs. Et pour nous qui étions des tout jeunes étudiants, enfin moi j'avais 23 ans à ce moment-là, c'est absolument extraordinaire, c'était l'aventure de Tintin.
Aviez-vous une liberté de mouvement à l'époque? Est-ce que vous pouviez vous déplacer?
Ah non, pas du tout, c'était extrêmement contrôlé. On était habillés comme des Chinois et puis on était en vélo. Mais on se faisait arrêter, soit par la population, soit par des policiers, et on est obligé de revenir, on n'avait pas le droit de dépasser certaines limites.
Marianne Bastide-Bruguière, à qui enseignez-vous le français, justement, à Pékin, en 64-65?
Alors, comme j'étais relativement gradée, j'étais normalienne agrégée, j'ai été affectée à l'université de Pékin. Et on m'a donné une classe de 11 garçons, tous diplômés de sciences, desquels on exigeait qu'ils apprennent le français, pas du tout pour aller faire de la coopération scientifique ou quelque chose avec la France, mais pour aller en Afrique, dans des pays francophones. Et à cette époque-là, le but, c'était d'obtenir que les pays francophones en Afrique votent pour la restitution du siège de la Chine à la Chine populaire aux Nations Unies.
Marianne Bastide de Bruguière, une des premières Françaises en Chine en 64. C'est un témoignage précieux que nous retrouverons tout au long de cette émission, tout comme celui de Claude Chaillet, Bernard Crook. On a bien entendu que les élèves de Marianne Bastide de Bruguière doivent apprendre le français pour aller faire de la coopération dans les jeunes nations africaines francophones.
Oui, parce que en 1960, les pays d'Afrique noire francophone et Madagascar ont eu leur indépendance. Chacun avait un vote à l'ONU, potentiellement, à partir de 1961. 1960, c'est l'année de l'indépendance. En 1961, ils commencent à pouvoir voter. Certains rejoignent tout de suite le camp pro-Pékin. D'autres, au contraire, sont associés à Taipei. Et il y a une politique de coopération de la Chine qui est très, très efficace. Et c'est un enjeu. Chaque année, à l'Assemblée Générale, il y a un vote pour savoir si Pékin va reprendre le siège de la Chine ou Taipei va le garder. Et la France est ennuyée, parce que la France, elle est bien entendu d'accord pour que la Chine rentre à l'ONU, mais elle n'est pas d'accord non plus pour expulser aussi vigoureusement et brutalement Taïwan. Donc c'est un gros problème, ça. Et bon, pour les pays africains, évidemment, ils sont un enjeu, mais la plupart votent comme la France.
Autre problème, celui de la sécurité en pleine guerre froide, Edgar Faure livre son diagnostic.
Le problème de la coexistence pacifique. Actuellement, avec la Russie, ce problème a beaucoup avancé. Il faut absolument que nous obtenions que la Chine entre dans le système de la coexistence pacifique et qu'elle choisisse cette voie. Deuxième question, le désarmement. En troisième lieu, une entente internationale, une entente de tous les pays industrialisés pour la promotion des pays sous-développés. C'est là notre grande tâche. Or, comment pouvez-vous le faire sans la Chine, qui est à la fois, dans une certaine mesure, un pays sous-développé et le plus grand, mais qui est en même temps un pays en passe de développement et qui, pour cette raison, aide d'ailleurs des pays encore plus sous-développés qu'elle.
Et le développement, la sécurité, l'indépendance de la Chine passent par la maîtrise de l'arme atomique. Écoutez, Claude Chaillet, premier représentant de la France à Pékin en 64, il est convoqué à ce sujet par le premier secrétaire général du Parti communiste, Deng Xiaoping, une histoire chinoise.
Je me souviens de la rencontre avec Deng Xiaoping comme si c'était il y a 10 minutes. Oh, c'était extraordinaire. J'avais été déjeuner dans un restaurant chinois avec mes collègues. Et puis le restaurant était plein. Et puis on a fait un deuxième restaurant complet. Troisième restaurant, il y avait de la place. On avait à peine commandé. quand le patron est arrivé pour demander si il y avait un représentant français, il faut que le français téléphone au Waijiopu. Et là, si on a téléphoné au Waijiopu, alors ils ont dit oui, en effet, le... parce que le secrétaire général, Jitin Chopin, veut le voir. Et c'est comme ça que se font les rendez-vous à Pékin. On trouve quelqu'un qui est en train de déjeuner et on lui dit qu'il est rendez-vous à 3 heures. Ça, alors, ce sont des histoires vraiment tout à fait chinoises. Hein. Inouïes.
Cette fois-ci, c'était pour vous dire quoi ?
Deng Xiaoping ?
Oui.
À l'époque ?
Oui.
Il m'a convoqué, en effet, pour me dire qu'il avait une communication importante à faire au gouvernement français, que le gouvernement chinois aurait la bombe atomique avant la fin de l'année. Voilà.
Vous avez tout de suite annoncé cette grande nouvelle au gouvernement français, évidemment.
Oui, enfin, j'ai annoncé ça avec calme. Il ne s'agit pas de s'énerver.
Interactualité.
16 heures, nous apprenions la nouvelle par un télégramme laconique. La Chine populaire a fait exploser sa bombe atomique. Voici comment Radio Pékin a donné la nouvelle dans son bulletin en langue française.
Ici Radio Pékin. Radio Pékin.
Le 16 octobre 1964, à 15h, heure de Pékin, la Chine a procédé à l'explosion d'une bombe atomique dans sa région ouest et a ainsi réussi à entreprendre son premier essai nucléaire. Le succès de l'essai entrepris par la Chine est une importante réalisation du peuple chinois dans le renforcement de sa défense nationale et dans la sauvegarde de sa patrie, et constitue également une contribution considérable du peuple chinois à la cause du maintien de la paix mondiale. Le comité central du Parti communiste chinois et le Conseil des affaires d'État leur expriment leurs chaleureuses félicitations.
Les Chinois font leur premier essai nucléaire en octobre 1964. Quel impact, Bernard Crook, sur la fameuse coexistence pacifique prônée par Edgar Faure, notamment entre la Chine et l'URSS ?
Ça va compliquer la situation pour tout le monde. Les Chinois, comme les Français en 1960, vont acquérir un statut différent. Et c'est le seul pays nucléaire, à l'époque, qui n'est pas membre du Conseil de sécurité. Bon, vis-à-vis des Soviétiques comme des Américains, évidemment, la bombe atomique chinoise, elle est expérimentale. Ce n'est pas une puissance atomique au plan militaire. Et il faudra attendre plutôt les années 70 pour qu'elle devienne vraiment une puissance qu'on considère avec intérêt ou avec inquiétude. Pour ce qui concerne cette histoire, c'est surtout un moyen pour eux de refuser les traités de non-prolifération et d'avoir une attitude semblable à celle de la France. Et là, ça va jouer un rôle. Là, ça va jouer un rôle notable. Et De Gaulle, avec de grandes espérances sur une politique commune avec les Chinois dans un certain nombre de domaines. Et il avait besoin de la Chine, notamment, pour essayer d'amener à une solution au Vietnam. Et il voulait faire pression à la fois sur l'URSS et surtout sur les États-Unis, neutraliser la région, ce qui aurait été l'intérêt de la Chine, à ses yeux, et permettre à la France de retrouver un rôle économique et culturel, et même politique, important dans le sud-est asiatique. Et pour des gens comme Alain Perfit, comme il y a eu la révolution culturelle ensuite, la Chine lui a manqué parce qu'elle n'a pas été dans ses vues. Et la grande politique de Gaulle a échoué en Chine à cause de cela.
On se retrouve à Pékin pour la révolution culturelle, juste après les infos sur RFI.
Marche du monde.
Le général de Gaulle voulait se rendre en visite en Chine en 71, 2 jours avant sa disparition. Le général a dit ceci: L'an prochain, je vais me rendre en Chine. C'est un grand pays. Je verrai Mao. C'est un grand homme.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
De Gaulle et Mao, deux grandes figures historiques qui se respectaient pour leur indépendance, mais qui ne se sont finalement jamais rencontrées. De Gaulle est mort avant. Néanmoins, le 27 janvier 1964, la reconnaissance de la Chine populaire par le général a initié 50 ans de relations franco-chinoises, des relations diplomatiques et culturelles, bientôt mises à mal par la révolution culturelle. Avec notre invité Bernard Crook, nous revivons cette incroyable histoire franco-chinoise.
La Chine, les Chines, depuis que le principe de la reconnaissance de la Chine a été posé et rendu public, nous ne sommes plus très loin des 700 millions de mots qui, dans les télégrammes et les journaux, parlent de la Chine. Du nouveau, ce soir, Pékin. Nous ne reconnaissons pas le concept des deux Chines. Taipei, c'est à la France de rompre avec nous. Paris, enfin, la France s'en tient au communiqué publié lundi à propos de l'établissement des relations diplomatiques, cela pour les communistes chinois. Quant aux nationalistes, s'ils n'agréent pas notre décision, il leur appartient de prendre leurs responsabilités.
Revenons, si vous le voulez bien, Bernard Crook, sur ce concept des deux Chines, hein, la Chine populaire, la Chine nationaliste. Alors que fait la France de la Chine nationaliste, puisque c'est quand même 10 millions de Chinois à Taïwan?
Alors pour ménager le maréchal Chiang Kai-shek, le général de Gaulle a envoyé deux personnalités françaises importantes à ses yeux en tout cas, le général Peshkov, qui avait été ambassadeur auprès de Chiang Kai-shek à la Libération, et le colonel Guillermaz, qui était non seulement un officier brillant, mais aussi un très grand sinologue. Et il y a eu une scène assez dramatique qu'a raconté Guillermaz. Peshkov et Guillermaz ont assisté vraiment à une scène dramatique dans laquelle Chiang Kai-shek ne comprenait pas, exprimait ses doutes, ses angoisses et sa colère, et son estime néanmoins pour De Gaulle malgré tout. Et finalement, ce sont les nationalistes qui ont décidé de rompre purement et simplement, alors que De Gaulle ne le souhaitait pas et que les Chinois communistes, eux, le souhaitaient. Alors Pékin souhaitait une rupture définitive de la part de la France ne le souhaitait pas, mais c'est finalement Taipei qui a mis tout le monde d'accord.
Alors reconnaître la Chine populaire pour De Gaulle, est-ce que c'est approuver le régime communiste de la Chine? Le général De Gaulle a répondu à cette question lors de sa conférence de presse du 31 janvier 1964.
Pékin et Paris sont donc convenu d'échanger les ambassadeurs. Il n'y a évidemment là, de notre part, rien qui implique aucune sorte d'approbation à l'égard du régime qui domine actuellement la Chine. La France ne fait que reconnaître le monde tel qu'il est. Mais il se peut aussi que dans l'immense évolution actuelle du monde, en multipliant les contacts directs de peuple à peuple, on serve la cause des hommes, c'est-à-dire celle de la sagesse, du progrès et de la paix.
Alors comment vous entendez justement cet extrait de la conférence de presse du général de Gaulle du 31 janvier 64, puisqu'il vient expliquer, justifier sa décision de reconnaître la Chine populaire? C'est quoi cette vision à long terme qu'il énonce?
De Gaulle était visionnaire. Je pense d'ailleurs que ceux qu'il soutenait comme ceux qu'il combattait ne comprenaient pas vraiment ce qu'il voyait. De Gaulle voyait très bien que la Chine était un pays misérable. C'est le seul qui n'est pas enthousiasmé par l'idée du marché chinois à l'époque. Il va là parce qu'il faut y être, il faut qu'il y ait une ambassade, il faut qu'il y ait des archives, il faut qu'il y ait des fiches. Claude Chaillet lui-même m'a dit que quand ils sont arrivés là-bas, c'était comme s'ils avaient été à Lisbonne pour savoir ce qui se passait en Pologne. Et il finissait par me dire, nous ne savions rien. D'autre part, il y a une tradition en France, on ne reconnaît pas des régimes, on reconnaît des gouvernements. Et la tradition du Quai d'Orsay, c'est même pas dire, on a une ambassade, je sais pas, au Burundi, on a une ambassade à Bujumbura. Le gouvernement nous importe, certes, il y a des pays avec lesquels nous n'avons pas de relations, très peu nombreux, mais il y a des statuts diplomatiques dans certaines villes qui sont particuliers.
Alors nous avons évoqué au début de cette émission ceux qui ont voyagé en Chine et qui ont inspiré la réflexion du général Edgar Faure. Vous êtes revenu sur sa personnalité, mais il y a aussi André Malraux. De Gaulle et Malraux s'admiraient beaucoup, et De Gaulle envoie Malraux, son ministre de la Culture, en Chine en 65.
Mao est la plus grande figure historique de notre époque, dans le sens où l'histoire implique une accumulation de choses. Enfin, Mao, c'est le général de Gaulle qui serait Clémenceau. C'est Staline qui serait Lénine. Parce que tout commence avec lui. La révolution de 1911 n'avait pas fini par une révolution concrète, le moins du monde, c'est une révolution de juristes. Les choses ont commencé à changer avec Mao, et depuis, ça n'a pas cessé d'être lui. Alors, il a rencontré des obstacles véritablement incroyables. Il s'est battu contre une armée très puissante. Je crois que la biographie de Mao est une des biographies les plus extraordinaires du monde.
Mao proclame la République populaire de Chine en 1949.
Ce dont je suis absolument sûr, c'est que c'est par la fraternité que passe la révolution. Ou bien c'est la révolution des avocats, comme disait Marx, et dans ce cas-là, c'est un ensemble de réformes ou de transformations. Au mieux, c'est le New Deal. Mais à partir du moment où la réalité révolutionnaire entre en jeu, sa matière première, c'est la fraternité. Je ne conçois même pas une révolution sans fraternité.
Mao par Malraux dans La Marche du Monde. Qu'en pense notre invité Bernard Crook ?
Le voyage de Malraux en Chine a été vu par les Français comme un des grands moments, mais c'est seulement en lisant les documents postérieurs, c'est-à-dire par exemple les rapports du voyage d'Alain Peyrefitte en Chine en 1971, qu'on se rend compte qu'il y a mal donne. C'est-à-dire pour les Français, on a envoyé un des plus grands écrivains français du XXe siècle, indéniablement, un héros de la guerre d'Espagne, un héros de la résistance, quelqu'un qui s'est battu courageusement contre le colonialisme en Indochine, enfin quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, qui est aussi un très grand écrivain, et on l'envoie, mais les Chinois attendent Couve de Murville ou Pompidou. Ils attendent des personnalités politiques importantes, le ministre des Affaires étrangères ou le Premier ministre. Mais d'après ce qu'a compris Alain Peyrefitte, Malraux s'est très mal conduit. Premièrement, il a expliqué la révolution chinoise à ceux qu'il avait faite, alors qu'il n'y était pas. En second lieu, il a fait l'apologie de Trotsky à des gens qui se réclamaient encore de Staline. Et en troisième lieu, il a rencontré le maréchal Chénier. Maréchal Chénier voulait montrer quelques signes d'un rapprochement potentiel avec les États-Unis et il lui dit « Toute famille américaine a des œuvres d'art chinoises à son domicile ». Et Malraux répond « Ils ont très mauvais goût ». Pour les Chinois, c'était insultant. C'est-à-dire, lui, Malraux, a pensé peut-être au mauvais goût des Américains, mais pour les Chinois, ça voulait dire « Les objets d'art chinois sont de mauvais goût ». Et ils ont été très vexés. Et ils n'ont pas du tout apprécié ce voyage. Alors, pour les Français qui continuent à parler, qui écrivent des romans, des livres là-dessus, et qui sont très contents de la chose, il y a un problème, je crois, de compréhension des mentalités chinoises. Et ça a été le problème de l'ambassadeur Lucien Paille aussi. Il expliquait à Chahi un jour « J'ai écrit 104 lettres aux Chinois, et ils m'ont répondu 3 ou 4 fois ». Chahi lui dit « Non, ils vous ont répondu 104 fois, mais il y a 100 réponses, c'est non. Mais ils sont polis, et ils ne vous diront pas non. » Et il y a tout un ensemble de choses que les Français n'arrivaient pas à assimiler. Les Chinois sont des gens à la fois très civilisés, très raffinés, très polis, et il y a toute une sophistication des relations sociales et humaines que les Français ne comprenaient pas.
Et effectivement, ni Malraux, ni De Gaulle n'avaient vu arriver la révolution culturelle, ce moment où Mao veut reprendre la main sur le parti, ce qu'il réussira à faire en procédant à une terrible épuration et en s'appuyant sur la jeunesse endoctrinée, les gardes rouges. Notre grand témoin, Claude Chaillet, premier représentant de la France en Chine populaire, se souvient de l'impact direct de la révolution culturelle sur sa vie quotidienne.
Pour vous donner un élément tout à fait ordinaire, mes enfants allaient tous les jours à l'école chinoise. Bon, et ben, du jour au lendemain, on leur a expliqué qu'on ne pouvait plus les faire accompagner par leurs petits amis chinois. Donc, du jour au lendemain, les autorités chinoises ont supprimé l'accompagnement de mes enfants à l'école par les enfants chinois. Ils se sont trouvés comme ça tout seuls, sans petits amis. Voilà. Il faut reconnaître que cette révolution culturelle est une affaire idiote. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Elle est idiote.
Nous retrouvons maintenant Marianne Bastide-Bruguière, qui, elle, fait partie des premiers professeurs embauchés par le gouvernement de Pékin.
Tous mes cours sont surveillés, c'est-à-dire qu'il y a dans la salle une assistante chinoise qui prend tout en note et note tout. Donc, il n'y a aucune liberté. Mais à la récréation, on essayait de se parler et j'ai eu de très bons rapports avec mes étudiants, en réalité. Ils me laissaient comprendre qu'ils n'étaient pas dupes du tout du système.
si vous voulez, nous, ce que nous avons éprouvé, c'est la vie réelle, parce qu'on était au contact des Chinois. Ce que n'avait pas, par exemple, M. Chaillet à l'ambassade, c'était beaucoup plus compliqué pour lui.
Marianne Bastide-Bruguière, est-ce que justement, de l'intérieur de cette université de Pékin, vous sentez arriver les prémices de la révolution culturelle qui démarre en mai 1966 ?
Ça a commencé bien avant, parce que le soir de notre arrivée à Pékin, le 30 août 1964, on nous a fait voir dans la salle de spectacle de l'Hôtel de l'Amitié un opéra nouveau, un opéra révolutionnaire, qui était une création de Madame Mao, parce qu'elle avait déjà commencé à créer ses opéras révolutionnaires. Donc le soir même de notre arrivée, on était déjà plongé dans quelque chose qui est devenu ensuite la révolution culturelle.
Est-ce que vous voyez également les premiers slogans sur les murs de l'université de Pékin ?
Oui, parce que alors la révolution culturelle proprement dite, si vous voulez, elle a commencé à l'université de Pékin et les premières affiches de critiques, elles étaient là.
Qu'est-ce que vous lisiez sur ces affiches ?
Qu'il y avait de dangereux révisionnistes, des bourgeois, des soutiens du capitalisme, etc. et tout, en fait, toutes sortes de choses de propagande idéologique. Puis ensuite, moi j'avais sous mes fenêtres des malheureux professeurs qui étaient astreints aux travaux manuels pour expier leurs crimes. On trouvait ça ubuesque comme système. Et ce qui nous fascinait, c'est que ça puisse fonctionner alors que les Chinois étaient si intelligents et en réalité si peu dupes.
Bernard Crook, les mots de Marianne Bastide-Bruguière sont frappants. Très peu d'Occidentaux ont vu ce qu'elle a vu de ses yeux. Elle est l'une des toutes premières à être témoin de la violence de la révolution culturelle.
Oui, mais il y avait déjà des prémices, dirons-nous, dans le système. C'est par exemple, ce sont les récits de Lucien Baudard, qui se rend en Chine dans les années 56-57, et qui voit des choses qui le surprennent, lui qui est né en Chine, et qui, en même temps, le fascinent. Et il publie deux livres, La Chine de la douceur, qui est très mal vu par les Chinois, alors que c'était une description, et il écrit le deuxième livre, La Chine du cauchemar, parce qu'il ne peut pas sortir de Pékin, il a très peur d'être arrêté. Et on est juste au début du grand bond en avant, 1958. Et Baudard est donc interdit de séjour en Chine jusqu'en 1986 ou 7. Il reviendra en Chine qu'à la fin des années 80. Il y avait déjà des aspects de ce régime totalitaire. Il y a eu le récit en 1969-70, il y a eu le récit de Jean Pasqualini, prisonnier de Mao, donc qui parlait d'une période précédente. Mais la révolution culturelle bouleverse toute la société chinoise d'un coup, et elle détruit aussi le système éducatif sur plusieurs années.
Millions de Chinois, et moi, avec Marie, mon petit schéma, mon mal de tête, mon boîte au foie, j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, 80 millions d'Indonésiens, Et moi. Avec ma voiture et mon chien, son canigou quand il aboie, j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie. 300 ou 400 millions de noirs, et moi. Rivez au brunissoir, au sauna pour perdre du poids, j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie. 300 millions de soviétiques, et moi. Avec mes manies et mes tics, dans mon petit lit en plume d'oie, j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie.
Vous écoutez RFI, la marche du monde, Valérie Nivelon.
La révolution culturelle change les plans du rapprochement franco-chinois, y compris, bien sûr, au niveau diplomatique, comme le raconte le diplomate chinois Hu Jiamin.
La révolution culturelle a beaucoup affecté d'une manière négative la diplomatie chinoise. Parce que j'étais à l'époque aux affaires étrangères, il y avait une stagnation. Tout s'est arrêté. Malgré cela, des échanges entre la France et la Chine ne se sont pas tout à fait arrêtés. Par exemple, pendant la révolution culturelle, le ministre Bettencourt est venu en Chine. L'ancien premier ministre Couve de Murville est venu en Chine. Et Alain Perfit est venu en Chine. Et il a rencontré le premier ministre Zhou Enlai. J'étais l'interprète. Vous savez, à ma connaissance, le 16 mai 1966, la France a invité le premier ministre Zhou Enlai à se rendre en France. Malheureusement, le 16 mai 1966 marque le commencement de la soi-disant révolution culturelle, ce qui a rendu impossible la réalisation de cette invitation.
Le général de Gaulle a reçu l'ambassadeur de Chine, M. Yuan Chen. L'entretien a duré un peu plus d'une heure. L'ambassadeur a simplement déclaré aux journalistes en souriant.
Je viens de rentrer de Pékin. Vous le savez bien. J'ai voulu saluer le général de Gaulle en lui rendant visite.
Est-ce que vous avez porté un message au général de Gaulle ?
Silence radio donc, mais selon Hu Jiamin, le premier ministre Zhou Enlai reste malgré tout très attentif à la personnalité du général de Gaulle.
À l'époque, la Chine était fermée. Mais au ministère des Affaires étrangères, nous recevions des journaux français comme Le Monde, Le Figaro. Je lisais ces journaux à Zhou Enlai à propos du général. Par exemple, il a toujours demandé à sa secrétaire de poster ses lettres personnelles, mais pas utiliser l'argent public pour ses propres affaires. Alors, quand je disais ça à Zhou Enlai, pendant la révolution culturelle, il était très, très pris. Mais il écoutait attentivement. Alors, dans ses yeux, j'ai lu ce regard sympathique et d'admiration dans le regard de Zhou Enlai.
Hu Jiamin, ancien interprète de Zhou Enlai en 66, au commencement de la révolution culturelle. Les Chinois, et pour le coup, les relations franco-chinoises en prennent pour 10 ans, Bernard Cook, à ce moment-là.
Oui, on peut dire que... Alors, il y a eu quand même la visite de Georges Pompidou en septembre 1973. Pompidou était très gravement malade, mais enfin, il a tenu à faire ce voyage, et il est revenu en disant « la Chine est au bord de la guerre ». Et Valéry Giscard d'Estaing a été élu en mai 1974, pendant... On peut dire 4 ou 5 ans, les relations sont quand même très limitées. Et puis, il y a l'ouverture avec Deng Xiaoping. Et donc, la fin du mandat de Giscard et le début du mandat de François Mitterrand vont changer toute la relation franco-chinoise grâce à l'activité des Chinois et l'ouverture économique. Et donc là, les Français vont s'engouffrer dans une brèche au plan économique, mais au plan culturel. Et il va y avoir de nouveau des échanges, des visites de chaque président, et parfois plusieurs visites, comme pour Jacques Chirac. Et donc là, la relation franco-chinoise a repris un rythme beaucoup plus soutenu, beaucoup plus sympathique.
Et puis pendant ces 10 années, il y a eu bien sûr le fameux mai 68 français auquel les Chinois ont porté un intérêt certain.
Mai 68 en France, on regrettait ça comme quelque chose de révolutionnaire. À l'époque, la révolution était très en vogue. Alors les étudiants français ont branlé des livres rouges. Quand les Chinois ont vu cela, ils se sont félicités. C'est une très bonne chose. Voyez, la révolution est en train de gagner du terrain à travers le monde. On suivait ça de près.
Dans votre livre, Bernard Crook, vous parlez de cet épisode du mai 68 français.
Oui, les Chinois suivaient cela. Et les jeunes Chinois, évidemment, c'était téléguidé, ont fait de grandes manifestations à Pékin pour soutenir les jeunes Français. Et ils avaient notamment insulté De Gaulle. Et Alain Perfit était allé voir De Gaulle, très inquiet et très déconfit, en lui disant « Mon général, ils ont manifesté en disant « De Gaulle est un chien ». Et De Gaulle, qui lui ne se laissait pas perturber, avait répondu « Eh bien, Perfit, c'est la première fois que je suis traité de chien par des Pékinois
». De Gaulle avait beaucoup d'humour. C'est une des nombreuses anecdotes, Bernard Crook, de votre livre. Alors, on l'a dit, hein, De Gaulle, qui adorait voyager, qui avait apparemment réellement envie d'aller en Chine, n'ira pas puisqu'il meurt le 9 novembre 70. Hu Jiamin évoque ce moment.
Les Chinois ont été attristés par la disparition du général. C'est pourquoi Malgré la révolution culturelle, le président Mao a envoyé un message de condoléances à Madame de Gaulle. Et il a dit que c'est un combattant inflexible contre le fascisme. C'est vrai. Le général n'a jamais cédé devant l'agression fasciste. Il a tenu tête. Et malgré la révolution culturelle, on a envoyé le représentant spécial du gouvernement chinois à Paris pour assister aux funérailles du général de Gaulle.
Un hommage tout de même de la Chine à De Gaulle au moment de ses funérailles, alors qu'on est toujours dans la révolution culturelle, Bernard Crook.
Je crois que c'est Chou Enlai qui dirigeait plus ou moins la diplomatie. Les Chinois avaient ramené pratiquement tous leurs ambassadeurs qui étaient à l'étranger. Et il y avait quand même quelques petites tentatives de la part du premier chinois de maintenir un lien avec l'étranger. Et c'est de cette façon, ensuite, qu'en 1972, même en pleine révolution culturelle, Richard Nixon se rend en Chine. Donc il y a quand même des contacts. Il y a quand même dans une certaine partie des sphères politiques chinoises les plus importantes, la volonté d'aller vers l'Occident. Et justement, l'aggravation du conflit sino-soviétique en 1969, avec les troubles sur les frontières de l'amour et de l'Oussouri, et même le risque de déflagration nucléaire, que Nixon avait empêché à l'été 69, a expliqué le rapprochement des Chinois et des Américains. Et finalement, c'est à ce moment-là que la politique de Gaulle de 64, que les Chinois espéraient voir suivi très vite par le reste du monde occidental, c'est là que la politique de Gaulle est imitée. Et c'est là qu'on voit l'Italie, la Belgique, le Canada, le Chili, l'Autriche, enfin un certain nombre de pays, demander aux Français « Comment avez-vous fait pour reconnaître la Chine ?» Et les conditions par lesquelles les relations diplomatiques chinoises avec ces pays vont se nouer sont différentes et moins avantageuses pour ces pays que pour la France. La France a quand même été la première, donc elle a eu un traitement un peu de faveur.
Bernard Crook, au terme de votre travail de thèse, c'est une longue enquête historique, notamment dans les archives du Quai d'Orsay. Vous avez rencontré beaucoup de témoins, dont certains que nous avons entendus aujourd'hui dans cette émission. Quel est votre bilan? Est-ce que De Gaulle, au fond, avait vu juste en reconnaissant la Chine populaire en 64?
Il a eu raison. Il a peut-être eu raison trop tôt. Il avait affaire à un régime qu'il ne comprenait pas, que les diplomates français qui étaient présents à Pékin et qui étaient pourtant très brillants, qu'ils soient sinologues, qu'ils soient futurs écrivains comme Jean-Pierre Engrémy, qui est devenu l'académicien Pierre-Jean Rémy, qu'il s'agit du général Guillermaz, qui était un spécialiste de l'histoire du Parti communiste chinois et de l'armée chinoise. Il y avait des gens vraiment extrêmement brillants à Pékin, dans l'équipe française, mais c'était des gens qui étaient rationnels, irrationalistes, qui étaient français. Ils étaient pétris de culture classique, ils étaient tolérants, c'était souvent des gens qui avaient les valeurs de la résistance à laquelle ils avaient participé. Et c'était des gens qui étaient de très bonne volonté, mais qui étaient dépassés par des événements historiques d'une ampleur invraisemblable. Ils se sont même très bien conduits pendant la révolution culturelle, quand par exemple la mission britannique a été incendiée et mise à sac, quand les diplomates soviétiques et leurs familles ont été passés à tabac à l'aéroport. Lucien Paille était présent.
Lucien Paille, donc, à l'époque, ambassadeur de France en Chine.
Il était présent avec Guillermaz, quand les sœurs franciscaines de Marie, des religieuses âgées qui ne faisaient qu'enseigner, ont été passées à tabac aussi pour certaines d'entre elles. Deux d'entre elles sont allées à Hong Kong pour mourir. Lucien Paille voulait intervenir. Les Français ont protesté, bataillé pour le cimetière militaire et le cimetière civil occidentaux. Et tous les deux ont été violés, il y a eu des sépultures profanées. Donc, dans tous les cas de figure, les Français étaient en pointe. Ils essayaient d'aller au maximum de ce que leur permettait le statut diplomatique et la volonté de préserver tant bien que mal ces relations franco-chinoises très ténues. Mais ils ont fait ce qu'ils devaient faire. On peut rien leur reprocher. Ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient. Par contre, il est certain que les relations économiques, ce n'était pas l'objectif à ce moment-là. Quant aux relations politiques, De Gaulle a compris qu'il ne pourrait pas tenir sur la Chine. Il y avait rien à en tirer. Et quant aux relations culturel, c'était une petite graine. Mais enfin, on voit que Madame Bastide-Bruguière et beaucoup d'autres ont utilisé cette petite graine pour profiter intellectuellement de ce renouveau. Et puis, aujourd'hui, par exemple, il y a l'enseignement du chinois qui a pris une très grande importance dans de nombreuses régions. Je m'en rends compte en voyageant en ce moment entre Quimper et Besançon. Il y a des lycées français, des collèges français partout, même dans les départements ruraux où on enseigne le chinois. Il y a un énorme effort qui est fait. Les Chinois sont très demandeurs aussi. Disons que De Gaulle a posé les jalons de retrouvailles franco-chinoises. Et maintenant, ben, les deux pays ont une relation amicale, je l'espère, et qui va continuer.
Merci Bernard Crook. Je vous laisse nous rappeler le titre et l'éditeur de votre livre.
Donc De Gaulle et la Chine, aux éditions Les Indes Savantes à Paris.
Alors on va se quitter en portant un toast à Mao, un toast porté par le président Pompidou.
Je vous invite tous, mesdames et messieurs, à lever votre verre à la santé de son Excellence le président Mao Tse-Tung, à la santé de son Excellence Monsieur le Premier ministre Chou Enlai, à la grandeur de la République populaire de Chine, au développement d'une amitié toujours plus fructueuse entre nos deux nations.
De Gaulle et Mao, c'est une édition de La Marche du Monde réalisée par Cécile Pompeani avec Sophie Liguo, Stéphane Lagarde et Philippine Veil, sans oublier les archives de RFI et de l'INA. N'oubliez pas de vous exprimer sur marche.monde@rfi.fr et sur Facebook. Podcastez cette émission, c'est la vôtre.